J'aimerais juste préciser que les trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, participent de notre croissance spirituelle et ont un rôle, on va dire, un peu particulier. Je ne vais pas le distinguer. Je vais dire simplement que le Père, c'est l'appel. Il me dit « reviens », hein, pour me rappeler à ma dimension d'enfant de Dieu. Le Fils, c'est plutôt l'élection. Il me dit « suis-moi » pour devenir un disciple. Et le Saint-Esprit, c'est l'envoi. Il me dit « va » pour vivre en apôtre. Mais en fait, la dimension d'enfant de Dieu, c'est plutôt le socle de notre construction humano-spirituelle. Plus j'accepterai d'être un petit enfant de Dieu, plus je serai capable de devenir un disciple, c'est-à-dire d'être docile, etc., on le verra, et plus je serai capable de vivre en apôtre, c'est-à-dire de porter aussi le royaume qui est en moi dans le monde. C'est pour cela que c'est important d'être un enfant de Dieu. D'abord, c'est la porte d'entrée, au royaume en plus. Hein. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, Matthieu 18, 3. Donc, être un enfant de Dieu, ça s'apprend hein, tous les jours, dans le quotidien de nos vies et durant toute notre vie. Voilà. Et ces trois personnes de la Trinité... voilà. Et ça s'apprend pour être à terme conduit par l'Esprit Saint en fait. Mais avant d'être conduit par l'Esprit Saint, puisque on nous dit dans la Bible que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont fils de Dieu, comme s'il fallait accepter d'être conduit par l'Esprit Saint pour être fils de Dieu quelque part. Hein, ça veut dire qu'il faut d'abord être fils de Dieu, c'est-à-dire avoir des parents. Hein. On va en parler. Voilà. Donc et ses parents. Voilà, ce Père, il veut nous donner une seule chose. Voilà, faut le savoir, il veut nous donner la vie. Exactement, pour ceux qui étaient là la dernière fois. Voilà, c'est la vie qu'il veut nous donner. Hein, c'est pas l'amour, c'est pas... Enfin, on va voir tout ça, mais c'est la voie pour l'amour, la loi, c'est pour amener à la vie. Voilà. Et cette vie, il la veut en abondance pour nous, c'est la vie éternelle ici-bas, c'est la vie dans l'ici et maintenant. Et la vie dans l'ici et maintenant, c'est de permettre de bénéficier des arts du royaume. On l'a vu aussi la dernière fois, et les arts du royaume, c'est la paix, la joie, voilà, l'unité, la communion entre la différence qui vient de Dieu. Alors, pourquoi il veut nous offrir la vie, le Père? Parce qu'on est... mort. La Bible nous le dit dans l'Apocalypse 3:1. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors, pas complètement, bien sûr, puisque biologiquement, vous bougez et vous êtes là aujourd'hui avec vos oreilles pour m'entendre, mais un peu quand même, vous êtes mort. Voilà. Donc, en choisissant de vivre chaque chose dans notre quotidien, on l'a vu la dernière fois, par, avec et en Dieu et lui en nous, c'est-à-dire greffé à lui, Dieu nous offre la vie à chaque instant. Dans nos intentions, dans nos sentiments, nos pensées, nos désirs, donc, dans nos décisions et dans nos actes, nos regards, nos gestes, nos paroles. Voilà. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité, Deutéronome 30:19. Alors, je vous rappelle qu'à la fin des temps, ce que jugera Jésus, ce sont pas, on l'a vu, les bons et les méchants, c'est pas une histoire de bien ou de mal, c'est est-ce que tu seras vivant ou mort. Voilà. Donc, soyons très clairs, Dieu souhaite simplement sur terre nous donner cette vie. Et d'ailleurs, Maurice Zundel, que je cite souvent, nous dit le plus important ou le vrai problème n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, mais si nous le serons vraiment avant de mourir. Alors, pour ma part, je désire mourir vivant. J'espère que vous aussi. Donc, plus spécifiquement, pour nous donner la vie, Dieu, en tant que père aux entrailles de mère, j'y reviendrai, c'est-à-dire de bons parents pour nous, pour ses enfants, il désire nous sortir de la mort, nous relever, nous ramener à lui, pour recevoir la vie venant de lui, en un mot, nous ressusciter comme le fils prodigue. Et ça, ce retour du fils prodigue, c'est pas une fois que ça se passe. Hein. Bien sûr, pour ceux qui se sont éloignés définitivement de Dieu, voilà, le retour à la foi, le baptême, tout ça les ramènera, mais nous, c'est tous les jours, chaque seconde, qu'on a besoin de revenir. Je parlerai pas obligatoirement de ça aujourd'hui, on en a beaucoup parlé la dernière fois, de comment on revient dans la tempête. Je vais vous dire en quoi le soubassement d'être un enfant de Dieu aimer et recevant la vie du Père est fondamental. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire d'abord? Premier point, j'en suis enfant d'homme ou enfant de Dieu. Concernant notre nature divine, d'abord, c'est je suis un extraterrestre. Voilà. Comme vous. Et à la fin, je ferai ici maison. Voilà. Donc, en fait, je ne suis pas que matière biologique ou terrestre ou cosmique, comme dirait Zendel, mais je suis de nature divine. D'abord, ça nous est dit dans Genèse, hein, dès le projet initial de Dieu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que déjà en nous, il y a quand même quelque chose de Dieu en nous. Et pour bien le comprendre, alors je vais faire un petit rappel rapide, mais très rapide, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc je vais poser des questions à ceux qui étaient là. Donc, un être humain, c'est quoi ? On commence par quoi ?
Corps.
Un corps, exact. Donc ça, c'est un corps. Voilà. Un corps, c'est le siège des pulsions, des instincts et des
sensations.
D'accord ? Le corps nous sert à être en relation avec le monde qui nous entoure. À l'intérieur du corps, il y a
l'âme,
qu'on appelle aussi âme psychologique. C'est le siège des sentiments, des émotions, des pensées, de l'imaginaire, etc. etc., etc. Voilà. Et à l'intérieur de l'âme, il y a l'esprit, ce qu'on appelle aussi l'âme spirituelle. Très bien. Voilà. Alors là, c'est le siège, souvent dans cette conception trichotomiste et tridimensionnelle de l'être humain. Il y a un minimal entendement, mais on peut y rajouter la volonté, l'intelligence et la mémoire, mais suivant les conceptions, les mélanges. D'ailleurs, de toute façon, la Bible nous dit que pour séparer l'un et l'autre, c'est très compliqué. Donc, de toute façon, ce qui va perdurer après notre mort, c'est ce duo corps et âme. D'accord ? Et à l'intérieur de l'esprit, qu'est-ce qu'il y a ?
Le cœur.
Ah non, ça, c'est le cœur. Égal leb. En hébreu, l'esprit, hein, ça s'appelle leb, qui signifie le cœur. Donc ça, c'est le cœur de l'homme, l'esprit. D'accord ? Alors, au sein du corps de l'homme, qu'est-ce qu'il y a ?
L'esprit.
Oui, il y a le grand E, l'esprit de Dieu. Voilà. Hop là. Donc, on y est. Donc, une fois qu'on a compris ça, l'homme, il vit de deux façons différentes, très simple. On l'a vu la dernière fois. Il vit soit en homme charnel, soit un homme
spirituel.
Exactement. Donc, l'homme charnel, il fonctionne comment ? Il est dicté par sa matière, d'accord ? Et il veut satisfaire à l'extérieur ses besoins intérieurs, c'est-à-dire il a besoin de satisfaire, et il tire du coup son esprit, son entendement, voire sa volonté, son intelligence, et puis toute sa psyché le tire pour satisfaire les besoins intérieurs à l'extérieur. Donc, c'est un homme qui est nu par son désir d'assouvir par l'extériorité. Je vous ai dit, les cinq verbes de l'homme charnel, c'est quoi ? Les verbes en voir ? Vouloir, pouvoir, savoir, avoir et valoir. Voilà. Donc, voilà. Lui, il veut, il a, il a, et il fonctionne comme ça, ce qu'il tire vers l'égoïsme. D'accord ? On a vu ça. Et puis, on a l'homme spirituel, ce qui lui fonctionne différemment. Il est guidé non pas par son corps, mais par son esprit, qui est lui-même éclairé de l'esprit de Dieu, d'accord, et qui va faire que ça va ordonnancer ses émotions, ses sentiments, etc., et le tirer vers des valeurs plus élevées qu'il voudra assouvir dans le monde. D'accord ? Alors lui, il fonctionne de façon différente, il fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Donc lui, il est vers l'oblation. Il y en a un, je me sers, et l'autre, il sert. Ah, c'est différent. C'est clair ?
Ouais.
Ok, c'est bon. Donc là, on a nos deux hommes. Alors, vous savez qu'il y a une opposition entre ces deux hommes. Hein. Voilà, il y a une opposition, hein. Il y a un combat. Saint Paul nous le rappelle, car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Donc c'est ça qu'il nous dit. Il y a antagonisme entre eux, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez, Galates 5, 17. Mais la pierre d'achoppement de tout ça, ça, on l'a pas vu la dernière fois, elle se trouve à l'intérieur, même si on en a parlé, elle se trouve au plus profond de nous. Mais, que ce soit notre extériorité découle de notre intériorité, on est en train de le voir, d'accord ? Où ça prend sa source en moi, hein ? Où est-ce que je m'abreuve ? On va le voir. Hein ? Est-ce que je m'abreuve à la partie blessée de mon être ? Ou est-ce que je m'abreuve à la partie sacrée de mon être ? Est-ce que je m'abreuve, on va le voir, à l'enfant d'homme qui est en moi ou l'enfant de Dieu qui est en moi ? Voilà. Donc la pierre d'achoppement se trouve dans nos profondeurs, et c'est ce que Jésus nous dit d'ailleurs. Alors, pour les comportements les moins ajustés, il nous dit « ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme ». Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Hein, et il fait toute la liste des bravations, etc., etc., adultère, voilà. Mais à l'opposé, il est dit dans la Bible aussi, dans Proverbe 25, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent, ça veut dire dont l'intelligence a été éclairée par l'Esprit de Dieu, s'est épuisé. Voilà, Proverbe 25. Donc du coup, on pourrait dire que mon âme, mon duo corps et âme, est divisé en nous, et que cela crée justement cette division, en fait. Et il me faut appréhender du coup ce duo corps et âme, ici, un peu comme un petit enfant. D'ailleurs, c'est David qui nous le dit, le roi David, dans le psaume qui est le plus court de la Bible, qui est le psaume 131, où il parle de cette notion d'enfant et d'âme. « J'ai l'âme tranquille et calme comme un petit enfant » qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un petit enfant. Donc on pourrait considérer qu'à l'intérieur de moi, il y a un petit enfant. Mais en fait, comme mon âme est divisée, cet enfant, il est divisé aussi. Donc c'est un peu comme si j'avais des frères siamois, un enfant à deux têtes, ils sont collés. Voilà. J'ai à l'intérieur de moi, d'un côté, un enfant que j'appellerais blessé, mortifère, l'enfant d'homme, hein. Ce dernier, il a été marqué essentiellement par les désajustements parentaux, par les maltraitances, les traumas, mais aussi par l'héritage de ses ancêtres, mais aussi par sa nature profonde d'être humain centré sur lui et égoïste. Donc, il est porteur, cet enfant en moi, d'une malle de peur, une malle de colère, une malle de blocage, de dysfonctionnement relationnel, emmagasiné et stocké depuis son enfance. D'accord? Et c'est ça, c'est cet enfant qui a subi tout ça, qui est soit en quête de répétition de ça, soit en quête de compensation de ça. Ce que j'ai pas eu, je le veux, ou ce que j'ai vécu, je le répète. C'est assez simple, d'accord? Et donc, ça fait de moi un enfant qui a connu le scandale, entre guillemets, dans Matthieu 18, et qui est devenu la brebis égarée. Donc, il fait de moi, cet enfant en moi, cette âme, d'accord, partie d'âme blessée, fait d'en moi l'homme charnel, c'est-à-dire un adulte dysfonctionnel et blessant. Ça représente ce que j'appelle le moi. L'enfant immaculé en moi ou l'enfant vivifiant, ce que j'appelle l'enfant de Dieu, lui, il est intact de toute souillure. Même si on a subi les pires violences du monde, elle est intacte de toute blessure et elle est porteuse de tout notre trésor de potentialité. Nos talents propres sont à cet endroit. C'est notre trésor, d'accord? Voilà. Et c'est cet enfant qui est obéissant et dépendant de Dieu. Autant l'autre, il est en colère, il a peur, etc., il est coupé de Dieu, il fait de moi l'homme charnel, autant il y a une partie de moi qui désire Dieu, qui désire retrouver, on va le voir, mon Père créateur, quoi. Voilà. Il y en a un, il est fruit de la biologie, l'autre, il est le fruit de ma création. Et ça, elle est intacte. Voilà. Et c'est celui-là, ce petit enfant, qui peut entrer dans le royaume. D'accord? Matthieu 18, toujours. Souvent, j'ai fait des prédications sur Matthieu 18, parce que ça parle de toute l'histoire. Celui-là, il n'a pas subi le scandale. C'est celui qui rentre dans le royaume des cieux. Voilà. Et c'est ce qui fait être, et c'est ce qui me fait être un homme spirituel. C'est-à-dire un homme ajusté, porteur du royaume, qui est habité de la vie, esprit, âme, corps, et donc qui porte des actes vivifiants, parce que mu par Dieu, parce que faisant la volonté du Père pour apporter la vie dans le monde, et agit et mu comme Jésus. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, avant tout travail sur soi, bien évidemment, on fonctionne 80% en mode enfant blessé et 20% en mode enfant de Dieu. Et le but de la vie, c'est de faire l'inverse. Je vous rappelle ce que dit Maurice Zundel. Rien n'est plus étonnant que l'immense majorité des hommes ne remettent pas en question leur moi. Ils prennent leur moi pour argent comptant. Et ils ont dit « moi » depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, avant de n'avoir rien choisi. Et c'est toujours ce « moi » préfabriqué qu'ils posent les fondations de leur vie. C'est toujours autour de ce « moi » infantile que se nouent leurs revendications et ils défendent bec et ongle un « moi » qui leur est tombé dessus, bien sûr, parce qu'on l'a subi, on l'a vécu de nos parents, c'est notre écosystème qui nous a forcé comme ça. Un « moi » qui leur est tombé dessus, ils ne sont nullement les auteurs et qui forment au contraire la limite de leur croissance et l'obstacle essentiel à la création de leur personnalité. Waouh ! Donc j'ai un « moi » d'un côté, un « soi » qui m'attend, un « je ». Voilà. Et il y a le combat, et en plus, l'autre, pour l'instant, il est sur le trône. le petit enfant blessé dans Goldorak, hein, ou Pacific Rim, là, les petits jeunes qui sont dans des grands robots. Ben voilà, vous êtes des adultes pilotés par un petit enfant en colère, qui a peur, qui a soit envie de répéter son histoire, soit qui attend qu'on pense ce qu'il n'a pas eu. Voilà, c'est un peu ça. Alors, à quand le règne de l'enfant de Dieu? Alors, du coup, si je considère que la croissance de mon âme demeure ma priorité, et que cette dernière est comme un petit enfant, il en découle nécessairement que j'ai besoin de grandir. D'accord. Donc, le principe de croissance, il est très simple. Quand on a compris ce qu'on a posé là, c'est des naissances successives. Ou alors, on pourrait dire des deuils successifs, sans fin. Voilà. C'est d'ailleurs les deux à la fois. Il va falloir que je meure à l'un et que je vive à l'autre. D'accord. Je meurs à l'ancien, je nais au nouveau. Dans la Bible, il est dit, 1 Corinthiens 15-31, chaque jour je meurs. Moi, je dirais, chaque seconde, je meurs. Voilà. Ainsi, notre chemin de croissance spirituelle consiste toujours à mourir pour naître. Mourir à celui que j'ai construit et que je crois que je suis, le moi, l'homme charnel piloté par l'homme, l'enfant d'homme blessé, pour naître à celui que je suis vraiment, le je ou le soi, l'homme spirituel piloté par l'enfant de Dieu en moi, qui lui est obéissant, docile, à quoi? À l'Esprit de Dieu par lequel il est conduit. Paul le résume ainsi. Il vous faut, renonçant à votre vie passée, rejeter le vieil homme, je rajouterai toutes les secondes, qui va se corrompant, dupé par ses convoitises, vous renouveler par l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Poum, pouf. Éphésiens 4, 20, 24. Voilà. De la mort de moi à la naissance à soi. Maurice Zundel, je vous l'ai dit, appelle cette naissance à soi la nouvelle naissance ou la seconde naissance, parce que vous avez une naissance biologique, et on va dire que toute votre vie, vous allez apprendre à naître spirituellement. Alors autant la naissance biologique, il y en a une, autant la naissance spirituelle, c'est toutes les secondes. Je le répète, je le redis, voilà, dans le quotidien. Voilà, c'est la naissance à notre Père aux entrailles de mère qui va se faire un peu. Donc cet enfantement, il est permanent, il est quotidien de notre être authentique et profond, l'enfant de Dieu, une naissance à soi continue chaque jour, chaque instant, jusqu'à notre mort. Et ce, dans les choses simples de la vie, puisque la vie va créer une altérité, va venir nous confronter pour justement créer ce « waouh ». Voilà. Soit dans l'altérité qui me confronte, tout simplement le quotidien, on l'a vu la dernière fois, les épreuves ou même mes combats intérieurs, ça vient me gratter. Donc la question, ça sera, est-ce que je veux transformer l'extérieur comme l'homme charnel et prendre le pouvoir et dire, non, non, c'est toi qui dois changer? Ou est-ce que je vais commencer à dire, ouf, si ça me gratte, c'est qu'il y a quelque chose à changer chez moi. Et donc, il y a ce processus qui se met en route. Voilà. Bien sûr, on va comprendre que ce processus, même si je vais le décrire un peu, c'est Dieu qui le fait. Donc, ce principe... c'est le principe de la transformation de mon âme. C'est un col de l'utérus quand on est. Hein, un col de l'utérus, c'est un passage entre un lieu qui était précédent, le point A, voilà, le point B, hop. Et pour passer d'un point A à un point B, tout passage, toute naissance, peu importe comment vous l'appelez, toute transformation, en une seconde ou en trois heures, peu importe, pour nous faire passer d'un point A à un point B, il y a un col de l'utérus. Pour aller à Paris, de Paris à Rome, il faut que je quitte Paris pour aller à Rome. Et c'est pareil pour le peuple hébreu qui quitte la terre d'esclavage pour aller vers la terre promise et leur col de l'utérus, c'est un passage au désert. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont restés 40 ans. 40, 4, 10. 10 veut dire toute la vie. 40, 4, c'est le chiffre de l'incarnation. Si on veut s'incarner, il faut passer par ce col de l'utérus. D'accord? Ok, très bien. Oui, 4, c'est incarnation, 3, c'est la divinité. 4 et 3, 7, c'est Jésus, c'est l'homme accompli. D'accord? Donc quand vous voyez 7, 4, des trucs comme ça, 40, voilà. 40, c'est le temps qu'il faut pour s'incarner dans la vie, quoi. J'exagère à peine, hein. Il faut 80, 85, comme les pères, hein, voilà. Donc, essayez de faire court. Allez, Olivier, tu vas tenir. Allez, durant ce passage, se vivent simultanément la mort à l'homme ancien que je dois quitter, la terre d'esclavage, etc. Mais aussi, on va voir la guérison de l'enfant blessé.
Donc en fait, il y a guérison de l'enfant blessé à l'intérieur qui se fait pour quitter. Hein. Il y a déconstruction de ce qu'il a construit, ce que j'appelle la Babel, je ne vais pas vous le dire ici, les croyances, les drivers, comment il relationne, etc. Et le vieil homme, profondeur enfant, intérieur Babel, les trucs. Et il y a tout ça qui va se dégringoler. Et pour que ça dégringole, il faut guérir l'enfant blessé. Et de l'autre, qu'est-ce que je construis? Ben, l'enfant de Dieu. Wow, avec ses talents, etc. On va dire un temple, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir les choses, et du coup, à l'extérieur, un homme spirituel.
Vous avez tout compris. On passe d'écailles et des oignons à l'eau et la manne, venant du Père. En vérité, je vous le dis, le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il demeure, il porte beaucoup de fruits. Donc, il faut mourir beaucoup dans la vie, et donc ressusciter beaucoup. Alors, à présent, si je considère que la croissance de mon âme demeure ma priorité, que cette dernière est-elle un petit enfant, que cet enfant a besoin de grandir, et que pour grandir, il faut mourir et renaître, j'ai donc besoin de parents. D'accord ? Alors, les parents.
Là, ça va parler à tout le monde. Un parent, c'est deux choses, on va le voir, pour vivre ce temps de passage entre un point A et un point B, c'est-à-dire un utérus dans lequel j'étais bien, matricielle, logé, nourri, blanchi, la terre d'esclavage dans laquelle j'étais, pour aller vers ma terre promise, d'accord? J'ai un passage. Et pour faire ce passage, j'ai deux ingrédients et une recette. Et on va voir les deux. D'accord?
Donc, pour faire ce passage, idéalement, d'accord? Comme seul Dieu peut le faire et nos parents n'ont pas pu le faire, d'accord? J'ai besoin de deux ingrédients qui sont l'amour et la loi de vie, je précise. Donc, le petit enfant, il a besoin, comme mon âme, pour passer, franchir les étapes spirituelles, d'accord, de mon âme, j'ai besoin d'attachement, d'affection, de nourrissement. Ah, tiens, comme le peuple hébreu au désert, comme le bébé dans le ventre de sa mère qui a besoin d'un temps de gestation pour se développer, d'accord? Et mais après, il a besoin d'un temps de, oui, de séparation, de sortir de là, de guidance, d'accord? Indispensable pour grandir, pour aller plus loin dans la croissance. Comme le bébé qui, à un moment, doit naître et aller vers un autre point. Voilà. Donc, en permanence, toute notre vie, on quitte des états
qui sont vieux, obsolètes, qui nous alourdissent pour aller. Et pour ça, on a besoin de la loi. On va le voir, on l'a vu. L'amour, pardon, et la loi.
Donc, dans l'attachement, ce dont il est question, c'est le besoin d'amour de l'enfant, de notre âme. L'amour qui nourrit, qui soigne et qui valorise, qui permet donc de rassurer l'âme, de la soutenir. Avant quoi? Avant un passage, d'accord? Avant toute étape de croissance. Un amour qui nourrit, qui rassure et qui fortifie suffisamment pour pouvoir quitter. On n'a pas encore quitté, d'accord? C'est ce qu'on appelle la fonction maternelle, d'accord? Et dans la séparation, donc on a vu l'attachement, dans la séparation, il est question de loi nécessaire à poser pour l'enfant, mais aussi pour que mon âme, d'accord? Ben, me révèle quoi? La loi, elle fait, on le verra tout à l'heure, elle fait cinq choses. Elle révèle ce qui est mortifère. Ton temps est fini. T'as plus à rester dans le sein de ta mère. T'as plus à rester dans cet état d'enfant, d'homme. T'as plus à rester attaché à tes mauvais fonctionnements. Mon gars, là, il faut que, hein, la loi révèle ce qui me fait mourir. Et puis, elle me sépare. Deuxième chose. Et puis, elle me fixe un terrain de jeu en fonction de ma maturité spirituelle. Voilà. Et elle m'accompagne et elle me guide. Voilà. Et tout ça, ça me permet de quitter et de passer à l'étape suivante. La loi qui met en mouvement, d'accord, qui sort de la mort et qui mène à la vie, c'est ce qu'assure la fonction paternelle. D'accord? Alors, pour franchir toute étape de croissance, hein, notre âme, pour la faire mourir à l'ancien et naître au nouveau, tel un enfant, elle a besoin de deux choses à la fois, de l'amour et de la loi. Et c'est là où ça va coincer, parce que nous, l'amour, on aime bien. La loi, c'est un peu moins cool. Alors, pas par analogie pour une plante, si notre âme ou moi, en tant qu'enfant, j'étais une plante, je dirais que l'amour, la fonction maternelle, c'est la terre, l'engrais, le soleil, l'eau, tout ce qui nourrissait. Et la fonction paternelle, la loi, c'est le sécateur, le tuteur et la serre. Voilà. Et la plante, pour grandir, elle a besoin des deux. Je ne vais pas rentrer dans s'il en manque un ou deux. Ça, c'est un autre sujet, c'est sur les blessures. Et c'est exactement ce que fait Jésus, d'accord ? Écoutez bien, en s'adressant à un jeune homme riche auquel il veut faire passer une étape spirituelle. Et ça, c'est comme si Dieu nous les faisait passer tout le temps, ces étapes. Est-ce que je reste attaché à mes biens que j'ai ? Ou est-ce que je vais franchir ? Et voilà comment fait Jésus. Et voilà comment Dieu fait avec notre âme pour nous faire grandir. Ça m'émeut. Marc 10, 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il faut savoir que l'amour est toujours premier à la loi. Quand on te sent aimé, on peut poser la loi derrière pour quitter. Mais on peut pas mettre la loi avant l'amour. Donc, Jésus, et l'ayant regardé, l'aima. C'est la fonction maternelle. Tu dis, mon gars, là, voilà. Mais après, il va y avoir la fonction paternelle qui va faire tout le reste. Il lui dit, il te manque une chose. Vous allez voir les verbes. Va. Ça, c'est du père, ça. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. La guidance, viens et suis-moi. Voilà, on verra ces fonctions du père, elles sont fondamentales. Et ça vous servira aussi en tant que parent. C'est fondamental aussi, pour comprendre des choses. Donc la loi et l'amour, on a compris à quoi ça servait. Ça me prépare à quitter, ça me nourrit pendant un certain temps, puis après ça me dit, il faut changer d'état, mon gars. Voilà. Et ça le dit à notre âme. La loi et l'amour ne suffisent pas en tant que tel. Il faut une recette. Et la recette, c'est des dosages, les recettes. Ça, c'est pour passer le passage de façon idéale. On a les deux ingrédients, mais il nous faut la recette. Parce que trop d'eau, c'est pas bon. Trop de tuteurs, c'est pas bon non plus. Pas assez de... Il n'y a que Dieu qui peut être ajusté à cet endroit-là. Donc, mon âme a besoin de justesse et d'inconditionnalité. Ça, c'est la recette. Il faut que ce soit juste l'amour et la loi qu'on me donne, il faut que ce soit inconditionnel, c'est-à-dire gratos. Donc, le petit enfant, ou mon âme, a besoin de recevoir l'amour et la loi de façon ce que j'appelle adaptée et ajustée, de la part de celui qui l'accompagne. Dans notre cas, on va voir que c'est Dieu. Il a besoin d'amour et de loi ajustée, c'est-à-dire ni en trop, ni en pas assez. Si je reprends l'analogie de la plante, s'il y a trop d'eau, trop de soleil, la plante... Merci. S'il n'y en a pas assez, alors, donc trop d'amour, pas assez d'amour, ça fait ça. C'est ce qui fait nos blessures hein, avec nos parents biologiques. Par contre, Dieu, lui, il va être pile ajusté exactement ce dont on a besoin. Et s'il y a trop de lois, trop de sécateurs, trop de tuteurs, trop de serres, fait pas de fruits. Hein. Autant dire, voilà, on est un cadre, on est un... Voilà. Et s'il n'y en a pas assez, pas de tuteurs, pas de sécateurs, pas de serres, on devient un buisson. On fait plein de petits fruits, mais ça féconde pas grand-chose parce que notre énergie, elle part de partout. Elle essaie de nourrir toutes les branches, alors qu'en fait, voilà, besoin. Il n'y a que Dieu qui va pouvoir nous donner l'amour ajusté pour pas nous en donner trop, ni nous en donner pas assez. Il sait exactement le dosage, lui. Et il va nous donner la loi qui est bonne. Je vous assure que Dieu, il veut vous amener à la vie. Et cette vie, cette loi, c'est une loi de vie, quoi. Faites confiance. Voilà, Dieu m'aime de façon unique et personnelle. C'est-à-dire qu'il me donne exactement tout ce dont j'ai besoin à chaque instant. Ça, humainement, c'est impossible. C'est pour ça qu'on a été blessé, d'ailleurs. D'accord ? Voilà. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc, quand on demande à être exaucé de quelque chose, encore faut-il savoir quelle est la volonté du Père. Dans la Bible, il est dit, demande selon la volonté et tu seras exaucé, hein. Donc, c'est à moi de me mettre en relation avec Dieu pour savoir ce que je demande. Et en demandant ce que lui a envie de me donner, ah, il y a raccord. Et là, ça se fait. Parce que si je demande à gagner au loto alors qu'il est en train de me travailler sur je sais pas quoi, j'exagère, bien sûr. C'est pour marquer le truc. Souvent, on atteint un truc qui est là alors que lui veut nous faire passer par là. Voilà. Deuxième ingrédient après l'ajustement, c'est l'inconditionnalité. L'inconditionnalité, c'est la gratuité. Les parents sont au service de l'enfant et non l'inverse. Dieu est à notre service. Les anges sont à notre service. Les saints sont à notre service. Et tutti quanti, voilà. Parce que normalement, des parents, des jardiniers normaux, ils ont posé une graine et ils devraient attendre que la plante pousse et qu'ils accompagnent la plante qui est là. Et si c'est un plant de tomate, il est hors de question de vouloir en faire un concombre. Or, il y a tellement de parents qui veulent faire un concombre de leurs plantes qu'ils découvrent pas. Et ils sont pas au service de leur enfant. Ben, Dieu, il est au service de ses enfants. Entendez-le bien. Va vers toi. Mon Dieu, Dieu dit ça. Va vers toi. Quelque part, ça c'est ce qu'il dit à Abraham, hein, l'ekleka. Va vers toi. Les Hébreux disent, va vers ton jeu. Va vers celui qui en germe à l'intérieur de toi. Voilà. Quitte ton ego. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris que on est une âme spirituelle qui est un petit enfant, qui a besoin de grandir. Pour grandir, elle a besoin de mourir et de renaître. Pour mourir et de renaître, elle a besoin d'enfants, d'un père qui donne un amour et une loi ajustée et inconditionnelle. Qui peut être ce parent idéal pour nous? Ben Dieu. Ben bien sûr. Mes parents, ils ont accompagné une âme biologique. Vu les dégâts qu'ils ont faits, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Et quand je dis les parents, les ancêtres et l'humanité qui m'a précédé. Donc, maintenant, il est temps que je sois accompagné sur l'autre versant de mon âme pour l'être de cette autre partie qui va me faire vivre un homme spirituel. Et pour ça, pour être rené, nouvelle naissance, mais beaucoup plus loin, reparenté en permanence, j'ai besoin du Père aux entrailles de mère. Alors pourquoi je l'appelle comme ça, le Père des cieux ou le Père de miséricorde? Et souvent, je ne m'arrête pas au Père parce que c'est important qu'on intègre la dimension vraiment paternelle du Père, mais pas que paternelle et maternelle, mais pas que maternelle non plus. Donc le Père aux entrailles de mère. Pourquoi? Parce que miséricorde, en hébreu, ça se dit merci, Rahamim. Et Rahamim, ça a son origine qui veut dire Raham, qui veut dire utérus, entrailles maternelles. Le père de miséricorde est un père aux entrailles de mère. Voilà, point final. Une fois qu'on a compris ça, il est nos parents idéaux pour accompagner mon âme. Mais bien sûr, mes parents, ils sont biologiques, ils accompagnent un être biologique. Je suis de nature spirituelle, je vous l'ai dit, iti maison. Donc, pour accompagner mon âme de nature spirituelle et devenir un enfant de Dieu, j'ai besoin du père aux entrailles de mère. Voilà, pour naître de nouveau, pour grandir dans ce corps et pour poursuivre mon chemin sur terre. Un Dieu qui est le bon père et la bonne mère que nous avons jamais eu. D'accord? Jamais, personne ici. Voilà. Donc, une bonne mère qui me nourrit, qui me soigne, qui me protège, et un bon père qui m'amène à quitter, qui me cadre, qui m'accompagne, qui me guide de façon ajustée et inconditionnelle tous les deux. Donc les seuls à même de nous reparenter en tant que père aux entrailles de mère, c'est Dieu. Voilà ce que déclare Dieu dans le livre d'Osée, Osée 11, 3, 4. Écoutez ça, c'est magnifique. Il s'adresse à vous. Éphraïm, c'est où? Mais pourtant, j'apprenais à marcher à Éphraïm. Je le soutenais par ses bras. Ça, c'est le père. Et ils n'ont pas vu que je prenais soin d'eux. Je les menais avec de douces attaches, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme celui qui élève un nourrisson coûtant tout contre sa joue, et je me penchais sur eux et je leur donnais à manger. Ça, c'est la fonction maternelle. Voilà. Donc, c'est à travers cet accompagnement idéal, ce reparentage divin, que va se passer la croissance nouvelle de mon âme, à la fois la guérison de mon enfant intérieur, à la fois l'édification de mon enfant de Dieu, détruisant l'un, reconstruisant l'autre, entre guillemets, de ma construction interne, et faisant que, du coup, je suis un homme nouveau. Et il va nous faire deux choses, il va nous guérir en même temps du mal qu'on a reçu de notre histoire, ou du bien qu'on n'a pas reçu et qu'on aurait aimé recevoir. Hein. Voilà, il va nous guérir de ça, et petit à petit, il va nous donner ce que l'on n'a jamais reçu, c'est-à-dire l'amour et la loi dont on avait besoin. Et ça, ça va nous reconstruire. Alors, l'amour maternel, maintenant. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes de l'amour maternel de Dieu, quand même? Parce qu'on va regarder l'amour maternel de Dieu et puis la loi de vie de Dieu. Parce que ça, c'est fondamental. Si on n'a pas goûté à tout ce que je vais vous dire là, on a encore à grandir en tant qu'enfant de Dieu. Si on n'a pas touché d'abord l'amour infini de Dieu. Infini, insondable, immesurable par l'être humain. Ah, il y a un passage, hein, les profondeurs, la hauteur, etc. Voilà. L'amour de Dieu est infini pour nous. Dieu m'aime, deuxième point, gratuitement. C'est-à-dire sans mérite. C'est-à-dire sans aucune condition. Quelles que soient, écoutez bien, les œuvres que je fais, hein, souvent je dis quand je tombe, voilà, hein, j'ai repris le Werner Lehmann, hein, un pasteur. Tomber, c'est humain, se relever, c'est divin, et rester par terre, c'est crétin. Voilà. Voilà. Dieu, il s'en fout qu'on tombe. Mais alors complètement. Si vous saviez comment il s'en... Il a oublié. Et, hein, comme le fils prodigue. Hein. J'en parlerai, il y a un terme, c'est inlassablement. Voilà. Déjà, il nous aime gratuitement. C'est gratos, c'est par grâce. On est ses créatures, on peut faire ce qu'on veut. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi, bien évidemment. Mais quand on voit que le premier au paradis avec Jésus, c'était un larron. Et donc, un larron, à l'époque... Hein, c'était pas un mec qui avait piqué des bonbons au Monoprix, hein. C'était un criminel, le gars. Hein. Voilà. Donc Jésus était entre deux criminels, bandits des grands chemins, quoi. Voilà. Ben même lui, il a dit simplement, voilà, tu es le Fils de Dieu. Allez, direct. Hop, montez. Vous en faites pas, vous montrez direct aussi. Tout va bien. Voilà. Donc j'ai du prix à ses yeux, de la valeur, et il m'aime. Waouh. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je vous donnerai la vie, la source de la vie, gratos, gratuitement. Voilà. Il m'aime de toute éternité. C'est-à-dire de avant, de maintenant, toujours et à jamais. Alors, les mots toujours et à jamais, c'est pas humain. Hein? Quand je dis, tu peux toujours compter sur moi ou à jamais. Hein? Non, ça, c'est pas, il y a le toujours et le à jamais, il y a que Dieu. Qui peut. Hein. Voilà. Donc, depuis ma conception, et je le serai bien au-delà, aimé de Dieu, avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Vous êtes tous consacrés. Jérémie 1,5. C'est important de réentendre ça, ça fait du bien même pour moi. Il m'aime fidèlement. Waouh! C'est-à-dire en permanence. Dieu ne nous lâche jamais, c'est nous qui le lâchons. Donc Dieu, il est au-dessus de moi, on pourrait dire. Il est carrément à côté de moi, mais je veux vous dire, il est carrément en vous. Hein, parce que la graine-là, c'est la Sainte Trinité. Hein, vous êtes des tabernacles hein, de Dieu. Ne l'oubliez pas. Père, Fils, Esprit Saint, c'est là. D'accord ? Donc, fidélité, lui, il est accroché. Il attend que qu'on dise « Go, vas-y, quoi. Tiens, là, j'ai une tentation, là, Seigneur, viens, quoi. Viens vivre en moi. Attends, je te dis plutôt, oui, je t'ouvre la porte, vas-y. Je t'ouvre la porte. Waouh. Ok, là je suis en train de vivre un truc difficile, viens, que je le vive par toi, avec toi, en toi. Et là il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il faut qu'il y ait les trois pour que tout se crée. Voilà. Donc, il m'aime fidèlement, d'accord ? Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle, psaume 89, 28. Il m'aime de façon personnelle. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il sait exactement l'amour et la loi, là où il doit me frustrer, là où il doit me castrer, là où il doit me guider, et là où il doit m'aimer aussi, et les deux à la fois, pour me faire passer une étape, il sait exactement ce dont j'ai besoin, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Matthieu 6:8. Il m'aime inlassablement. C'est-à-dire, moi j'avais fait une retraite un jour, jésuite, entre autres, et je lisais le Fils prodigue. Et il y a un passage, Fils prodigue, à la fin, où il lui remet la robe, l'alliance et les chaussures. Et je m'enduquais ce passage, et je le m'enduquais, donc je le répétais presque comme un mantra à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu dois te fatiguer à me réhabiller. Non. À chaque fois qu'on quitte par une pensée, ou qu'on quitte par une tentation, ou qu'on quitte parce qu'on s'agace, ou qu'on n'est plus avec le Seigneur, et qu'on revient, qu'il éclaire notre conscience pour revenir, pour l'inviter, à être habité de lui, agi de lui pour faire quelque chose. Vous savez ce qu'il fait? Il fait ça. Il vous habille, il vous remet la bague, il vous met des chaussures, et qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? Faites péter le champagne, quoi. Le veau gras, et on y va, c'est la fiesta, quoi. Voilà. Ben, ça, c'est à chaque fois que vous revenez à lui. Et ça, je me disais, moi, mais tu te lasses, Seigneur. Je répétais le truc. Tu vas te lasser, quoi. Pas du tout, il ne se lasse pas. Voilà, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Isaïe 55, 7. Et alors, il y a deux dimensions de l'amour incontournables qu'il vous faut absolument découvrir, et j'espère que vous les avez déjà découvertes, si ce n'est demander la grâce d'eux. C'est l'amour préférentiel. Je suis l'enfant préféré du Seigneur, souvent on le répète, mais ça, il faut le goûter. Vous êtes l'enfant préféré de Dieu. Je suis l'enfant préféré de Dieu. Tu es l'enfant préféré de Dieu. C'est-à-dire que je reçois, quand je suis le préféré, écoutez bien, 100% de son amour pour moi. Alors quand on mesure qu'il est immesurable, il est de jamais à jamais, 100% de son amour. Dieu, il dit pas, c'est pas humain. Moi, quand on entend des homélies où on compare Dieu à un père vraiment humain, c'est pas possible. Parce qu'un père, il partage, il y a un temps. Non, nous, on l'a en permanence en nous et on reçoit 100% de son amour. C'est-à-dire pas un 7,2 milliardième, parce qu'on est 7,2 ou 3 milliards. Sur la planète. Non, mais il ne divise pas, le. Il ne dit pas, je vais t'en donner un peu, je vais t'en donner un peu, et puis non. Tout. Tout. Tu es mon enfant préféré. Et il y a un aspect, donc, il donne tout, le Seigneur met en toi sa préférence, Isaïe 62, 4. Et il y a un amour exclusif. Oh, comme si j'étais un enfant unique. Alors, j'ai 100% de son amour. Écoutez bien, rien que pour moi. Waouh! Et toi aussi, tu as 100% de son amour, rien que pour toi. Faire l'expérience que je suis l'enfant unique, pas le fils unique, il n'y en a qu'un, je suis l'enfant unique de Dieu. Waouh! Ça, c'est énorme. Voilà. Le Père me consacre tout son temps, écoutez bien, toute son attention, toute sa présence. Il me donne tout de lui, tout de Dieu, à chaque instant, comme s'il n'avait que moi à s'occuper, quoi. Vous m'étonnez que c'est réparateur. Mon Père, je l'ai pour moi, quand je veux, tout le temps, où je veux, si je veux, quand je veux. Ça dépend de moi. Waouh. Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Je suis donc l'enfant préféré et unique de Dieu. C'est énorme. Ce qui me permettra, si je commence, écoutez bien, à être l'enfant, à recevoir son amour préférentiel et unique, c'est ça qui crée que je me tourne vers lui préférentiellement et de façon unique. Écoutez bien, c'est un principe fondamental si on veut pas ni s'égarer dans ces trucs, mais ni aller voir ailleurs pour essayer de trouver des solutions. Plus je reçois, c'est pour ça que la réceptivité première de Dieu est fondamentale. Plus je goûte tous ces aspects de l'amour, plus d'abord je vais être habité par, plus je vais pouvoir les donner au monde. D'accord? Mais plus je vais pouvoir lui rendre à lui. C'est-à-dire mon amour va être illimité pour lui. Mon amour va être préférentiel pour lui. Etc., etc. Et c'est parce que je reçois de Dieu cet amour dont j'avais besoin et qui me manquait tant en tant qu'enfant d'homme blessé que je ne vais plus l'attendre des autres. Vous comprenez? Sinon, je vais toujours le quémander aux autres autour. Donc, si j'apprends pas à le recevoir, toutes ces qualités d'amour de Dieu, comment vous voulez que je me tourne vers service aux autres? Les autres seront toujours des objets pour venir combler ce qui me manque. Recevez-le de Dieu. Il veut vous donner tout ça. Donc je ne l'attendrai plus des autres pour combler mes attentes d'enfant d'homme blessé, de recherche d'un bon père ou d'une bonne mère ou d'un bon frère, parce qu'il représente tout. Voilà. Et ça, je le recherche souvent avec mon conjoint, avec mes enfants, et du coup, tout le monde devient mon truc, quoi. Voilà. Ou de ma colère, ou de mon... Voilà. Dans une quête sans fin de soutien, de valorisation, je cherche ça auprès des autres. De reconnaissance, de cadre, de liberté, de compréhension. Tout ça, je le recherche avec ma femme, avec mes enfants, avec mes collègues au boulot. Lâchez, quoi. Tournez-vous vers Dieu. C'est lui qui va vous faire baisser la pression là-dessus, quoi. Et je n'attendrai plus non plus du monde. Parce que quand je reçois tout de Dieu, pour combler tout ce que j'ai pas eu, je vais pas le chercher non plus au travers de compensations matérielles, sexuelles, affectives, financières, etc. En quête de pouvoir d'avoir. J'ai besoin de rien.
Je suis le tabernacle de Dieu, il veut tout me donner, quoi.
Et quand on voit tout ce qu'il veut nous donner, voilà. Il me libère, si je le reçois, cet amour, de toutes mes attentes. Et je peux me détacher, pas être indifférent, détacher des autres et du monde. Alors, je peux dire comme Jésus, voilà, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Cet amour de père aux entrailles de mère qui me permet aussi de rentrer dans un détachement encore plus grand, celui du regard des autres sur moi, de ma croyance d'exister par et au travers des autres. Quand je reçois tout ça de Dieu, je n'existe que sous le regard de Dieu. Je peux vous assurer que ça allège les choses. Parce que le regard des autres, c'est quelque chose sur nous. Et c'est pas que le regard des autres, c'est le regard de moi sur les autres. Donc, c'est la jalousie des autres, la comparaison, le jugement des autres, mais aussi c'est mes jugements, mes comparaisons, etc., etc. Mais dès que je reçois ça de Dieu, quoi, il y a quelque chose qui s'apaise, quoi, qui lâche. L'autre est mon frère, il reçoit aussi 100% de l'amour, et c'est son enfant préféré, et super, quoi. Moi, j'ai à m'occuper de ce qui se passe chez moi, quoi. Et tout va bien, quoi. Lui, c'est sa vie, moi, j'ai la mienne, et ça serait bien que je sois sur la mienne. Parce que la pièce du puzzle, hein, qui est en attente, qui cherche à se dire où c'est que je dois être placé, etc., et qui essaie de se placer plutôt par rapport aux autres, alors que j'ai une place unique, spécifique, dans tout l'univers, qui m'attend, parce que j'ai des qualités, des talents propres. Si je la prends pas, cette place, qui va la prendre? Elle va manquer. Et en plus, je vais passer du temps à m'agacer avec celle des autres. Devenez qui vous devez être. Devenez un soi. Recevez l'amour du Père. Et pour être guidé vers où je dois aller, vers cette place, mais plus grandement, comment je me comporte au quotidien, j'ai besoin aussi de la loi. Alors la loi, je vais faire court. Je vais utiliser une métaphore comme ça sera vite fait et on pourra s'arrêter là. Je pense, il faut qu'on s'arrête, non? C'est ça? Ouais, peut-être, ouais. On va voir. Bon, besoin de l'amour, d'accord, et besoin de la loi. Alors la loi, ça, hein. Mais déjà l'amour, il faut le recevoir, hein, je peux vous assurer, hein. Voilà. Alors la loi, c'est un peu plus paternel, bien évidemment. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que déjà pourrait être un bon père biologique pour comprendre. Prenons un petit enfant qui a quoi, 3-4 ans, qui commence à faire du vélo et qui a un tricycle. Donc deux roues et deux roues. D'accord? Et il est temps qu'il passe juste à la petite bicyclette. Donc, il va falloir quitter un état précédent, c'est-à-dire enlever les roues, pour franchir une nouvelle étape de croissance, continuer, sans les petites roues qui sont à l'arrière. Alors, la première fonction, je vais vous les citer, les quatre, d'abord, c'est révéler, séparer, protéger, accompagner, guider.
Merci. Voilà. Donc, comment ça se passe? Il révèle toujours, Dieu ou un papa, ce qui fait mourir. C'est pour ça qu'il y a une loi. La loi, elle n'est pas là pour nous faire... Elle est là pour nous dire simplement, pour révéler ce qui nous fait mourir. Vous comprenez? C'est pas un ordre, hein, ces commandements, ces lois. C'est pour nous indiquer ce qu'il y a à pas faire si on veut pas mourir. C'est aussi simple que ça. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas. Grosso modo, souvent je dis, c'est simplement dire à l'enfant, ne mets pas les doigts dans la prise. C'est tout bête comme truc. C'est normal. Non? Ben voilà, Dieu nous dit, mets pas les doigts dans la prise, parce que ça te fait mourir. Donc, Dieu, la première chose qu'il fait, ou un parent, il révèle ce qui fait mourir à un enfant. D'accord? Voilà. Ensuite, on va voir. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire, le père? Il va dire, tu sais, si demain tu veux faire du vélo comme ta sœur ou ton frère ou tes copains ou ton frère qui est plus grand, et si tu veux demain pouvoir conduire un scooter, etc., si tu restes avec tes petites roues, bah, tu pourras pas faire. Donc, c'est simplement une invitation. Il révèle que s'il reste dans cet état, il stagne. Il reste à cet état avec ses petites roues. Ah, ça va éveiller le regard de l'enfant. Hein, voilà. C'est comme quand Dieu nous rappelle quand on prend la douche et qu'on est en train de faire les courses en même temps. Voilà, c'est pareil. Hop là, t'es parti. Hop, il nous révèle. Ah, ça s'appelle des alertes.
Voilà, c'est comme ça que Dieu se manifeste à nous pour revenir à lui. Voilà. Donc, il révèle. Ensuite, il sépare. D'accord. Il nous prend et il nous sépare. Voilà. Fonction séparatrice de Dieu. Hein? C'est important. Hein? Il y a une phrase dans la Bible qui est très importante. Matthieu 10, 34. Le Christ dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Ah, c'est fou, ça. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Waouh! C'est énorme. Par contre, à la fin, il dira, voilà, que la paix soit avec vous. Ce qui veut dire que si on veut atteindre la paix finale, il faut passer par la division, la séparation. La séparation de quoi? Du mortifère. Voilà. Donc, il me révèle le mortifère, je me suis barré, mais après, hop, il va m'aider à revenir pour me séparer de ce qui colle, mes pensées auxquelles je suis attaché, qui m'embrouillent, etc. On a vu ça la dernière fois. Waouh, c'est énorme. Donc, la paix, écoutez bien, est le fruit de l'épée. Si vous passez pas, ne serait-ce que déjà ces deux premières étapes, ça se passe pas. Je suis toujours coincé avec mes pensées, mes trucs. Donc, la fonction séparatrice, ça veut dire que le papa, il va dire, il faudrait enlever les roues. La zone mortifère, il va falloir la quitter. Donc, on va démonter les roues. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, super. Alors, bien sûr, ni on fait ça tout seul, en tant que père vrai, ni on dit, tu prends la clé de 12, tu te démerdes. D'accord? On fait avec l'enfant. Donc, Dieu, il nous accompagne dans cette séparation. Donc, viens, on va au garage et on va enlever les roues. Waouh, deuxième étape. Troisième, c'est, on va dire, on va créer un espace de jeu qui correspond à la maturité. Alors, on va dire spirituelle pour notre âme, mais on va dire psychologique pour un enfant. C'est qu'on va définir un cadre dans lequel il va pouvoir ne pas se faire mal, ni faire mal aux autres. Donc, au début, les deux nouvelles roues qu'il a et les deux anciennes qu'on a laissées, il va falloir dire, tu vas faire ça d'abord autour de la maison, dans le terrain gravier là qui est autour. On lui dit pas, tu vas aller dehors. Parce que s'il va dehors, il va pouvoir se blesser, mais des gens vont pouvoir le blesser. Donc le cadre, ce qu'on appelle le cadre, c'est un lieu de protection. Une protection pour l'enfant et une protection vis-à-vis de l'extérieur aussi. C'est fondamental. C'est comme ça que l'agrandissement de cadre en cadre, aussi bien un parent va permettre à sa fille de sortir au-delà de la maison et où le petit de faire du vélo en dehors, etc. On agrandit le cadre en fonction de la maturité de l'enfant. D'accord? Pour le laisser de plus en plus libre et un grand espace. Ben, Dieu, il fait exactement pareil avec nous. Au début, on sent qu'on va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi avec cette nouvelle âme qui est en train d'apparaître d'enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, la fonction cadrante. La fonction accompagnatrice, maintenant. Bien sûr, une fois qu'on lui a dit, le petit enfant fait du vélo autour de la maison, on lui dit pas, tu te démerdes. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on tient la selle. Là, c'est un standard, ça. On tient la selle et on tient le guidon, quoi, au début. Voilà, on accompagne. Mais Dieu, il fait pareil. Là, il nous lâche pas, hein. Vous allez voir que Dieu fait tout ça. Alors, l'amour, mais tout ça aussi, quoi. Encore faut-il qu'on invite. D'abord qu'on reçoive l'amour, et puis qu'on lui dise « viens » pour m'édifier, quoi. Et on lui dit « écoute, tu fais le tour, voilà, et si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Je suis là, assis, et je te regarde tourner. » Mais on le laisse, l'enfant. Et là, Dieu, il nous laisse. J'en ai des frissons. Là, il nous lâche. Et on fait avec cette nouvelle partie d'âme qui vient apparaître. Ça y est, je suis revenu. Je prends ma douche en conscience. Je suis là avec le Seigneur. Il m'a accompagné à revenir. Je suis présent ici maintenant à ce que je fais. Et hop, je repars. Et allez, il refait le boulot. Voilà, je suis là. Il nous guide. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la douche. Demain, c'est la conduite de la voiture. La prochaine fois, c'est avec ma femme quand elle va venir taper une blessure. Wow. Comment je fais? Est-ce que je suis en réaction avec l'enfant, le vieil homme, ou est-ce que j'invite le Seigneur, dès le début, dès qu'il y a une alerte, appelez-le, que ce soit une pensée qui m'éloigne pendant mon oraison, que ce soit quand je suis en conduite, que je m'agace comme je vous ai dit, ou que ce soit quand quelqu'un m'écrit un mail et que ça tape, ce sont que des alertes.
des alertes de ça. L'enjeu, ça va être de ça. Une fois que vous avez ça, vous invitez le Seigneur. Et ensuite, ça peut se passer. Parce que c'est lui, il est l'alpha, l'oméga. C'est lui qui va vous révéler la chose et c'est lui qui va vous mettre dans un état de paix à la fin.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour... Si, ça je vous l'ai dit, mais je vais vous le redire. Qu'est-ce que, quand j'accepte cette croissance de Dieu, qu'est-ce qui se passe, moi, en tant qu'enfant? Mon enfant de Dieu, il va grandir. D'accord? Et donc, s'il grandit, il se passe quelque chose, c'est que je vais apprendre des choses. Et ce que je vais apprendre, c'est toutes les qualités pour me rendre de plus en plus disponible pour recevoir l'amour de Dieu et la loi de vie. Pour que je sois en permanence dans la vie. Dans chaque acte que je pose, chaque action que je pose, même quand je coupe une carotte, que je parle à quelqu'un, que le royaume, que la fontaine jaillissante me traverse. Donc, je vais apprendre quoi? Venant de Dieu, n'oubliez pas ces qualités que je vais vous dire, elles viennent de Dieu, en vous. La première des plus grandes qualités, on l'a entendu, l'humilité. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, il faut arrêter de se prendre pour des adultes. Je vous l'ai dit la dernière fois. Dans la vie, il faut trois choses. Il faut aimer mourir et renaître. Il faut aimer être un pèlerin, parce que ce chemin dont je vous parle, c'est toute la vie. Et il faut aimer aller à l'école. Et pour aimer aller à l'école, il faut aimer apprendre. Et pour aimer apprendre, il faut être humble comme un petit enfant. Ne rien savoir. Tout ce que je vous dis là, c'est des travaux pratiques pour toute votre vie. Soyez un petit enfant qui a envie d'apprendre de Dieu. C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 4, 5. Et cette humilité, écoutez bien, elle ouvre encore à des qualités indispensables pour se laisser conduire comme un petit enfant, à grandir, à quitter l'ancien pour aller au nouveau, de plus en plus. L'écoute, l'obéissance, obéir.
Est-ce qu'après, si j'ai entendu et que j'obéis pas, je reste dans ma boucle?
Donc l'obéissance, la docilité. Heureux les doux, ils domineront la terre. Ouais, pour dominer la terre, c'est-à-dire au sens de donner de l'amour et de la vie sur la terre, il va falloir être un doux, un docile à Dieu pour que ça traverse et que ça rayonne sur la terre. Alors bien sûr, il faut être pauvre en esprit, c'est-à-dire pauvre en égo, pauvre en mental, pauvre en homme charnel. C'est ça que ça veut dire. Il faut de la confiance, c'est la foi en Dieu. Voilà. Il faut de l'abandon, il faut de la dépendance, bonne dépendance. Et puis de la fidélité. Demeurer dans l'amour et le flot de vie de Dieu est notre seul espoir. Faire de Dieu le seul vrai locataire pour notre cœur, notre esprit, je dirais même le seul propriétaire demain, l'enjeu de notre vie, il ne s'agit pas de connaître intellectuellement Dieu qu'il m'aime et qu'il a cette loi. Il faut vraiment se laisser vraiment envahir par lui, quoi. Prendre possession de notre esprit pour qu'après tout se transforme. Voilà. Voici comment Saint Jean de la Croix exprimera cela. Avec quelle tendresse et quel amour tu reposes éveillé dans les profondeurs et au centre de mon âme. Là, dans le secret et le silence, tu demeures en unique Seigneur. Non seulement comme dans ta propre demeure ou dans ta chambre personnelle, mais dans mon sein, en union intime et étroite avec moi. Voilà. C'est à ça qu'on est appelé.